France Inter.
Depuis toute petite, c'est vraiment venu en même temps que mon envie de jouer à la comédie. Voilà, j'ai toujours aimé écrire des histoires, des scénarios qui ne ressemblaient pas vraiment à des scénarios parce que j'ai pas fait d'école de cinéma. Des histoires d'amour, des histoires qui font rêver. J'avais envie de rêver, mais en même temps d'être réaliste, voilà. Pour échapper au quotidien, à l'ennui.
Le chant est venu pour moi plus facilement en arabe. Il y a quelque chose peut-être de l'ordre de l'émotionnel dans la langue arabe pour moi qui va bien avec le chant. Et la poésie, ça s'inscrit peut-être un peu plus entre les émotions et la pensée. Mais même si c'est la langue française, l'imaginaire nord-africain y est présent. Et cette façon de jouer avec les mots, les proverbes, tout ça sont des choses qui me viennent aussi de ma culture tunisienne et que j'imbibe dans la langue française.
La graine et le mulet d'Abdelatif Kechiche a lancé sa carrière en 2007. Elle obtient alors le César du meilleur espoir et 18 ans plus tard, cette année donc, le César de la meilleure comédienne pour Borgo. Figure appréciée et même populaire du cinéma français, elle est aussi une cinéaste reconnue. Allez voir son troisième film, La Petite Dernière, sorti mercredi. L'histoire d'une jeune femme, fille d'immigrés algériens, qui va vivre son homosexualité, découvrir l'amour et ses blessures, mais va étudier aussi la philo, continuer de pratiquer sa religion et d'aimer sa famille. Portrait complet, portrait complexe d'une femme d'aujourd'hui, inspirée du roman de Fatima Das. Bonjour, Afzia Herzi.
Bonjour.
Je rappelle que l'actrice de La Petite Dernière, l'émouvante Nadia Meliti, a reçu le prix d'interprétation à Cannes. J'imagine la joie que vous avez éprouvée.
Oui, la joie et l'émotion intense, voilà. Plein d'émotions qui se mélangent, beaucoup de fierté, trop heureuse. Trop heureuse pour elle, pour le film et pour le personnage de Fatima. C'est fort, symboliquement.
Votre invité s'appelle Nawel Benkrayem, bonjour.
Bonjour.
Vous avez grandi en Tunisie jusqu'à l'âge de 16 ans. Vous habitez en France désormais, vous êtes franco-tunisienne, vous êtes chanteuse, poète, compositrice. Bienvenue à vous deux, c'est le Grand Atelier.
France Inter, le Grand Atelier, Vincent Josse.
Nous sommes donc en compagnie de la cinéaste de « Tu mérites un amour », de « La bonne mère », de « La petite dernière », mais aussi d'un court-métrage et d'un téléfilm. Et je n'oublie pas la comédienne que vous êtes, Afzia Herzi, et qui en 20 ans a joué, j'ai compté, dans 41 films. Je ne suis pas trompée, c'est ça ?
J'ai arrêté de compter, ouais. Je ne sais plus.
C'est quand même énorme. Abdelatif Kechiche, je vous ai employé 3 fois. On vous a vu chez Guy Roddy, chez Bonello, la Polonide, chez Sylvie Vered, André Téchiné, et bientôt dans Histoire de la nuit, de Léa Misius, d'après Laurent Mauvignier. Et puis la Cinémathèque, depuis le 20 octobre, vous consacre une rétrospective jusqu'au 2 novembre. Quelle consécration !
Oui, c'est beaucoup de choses, beaucoup d'émotions et beaucoup de fierté. C'est une très très belle année pour moi cette année.
Il y a un attaché de presse qui s'appelle François Guérard qui dit de vous « Avant, personne ne l'a calculé, maintenant tout le monde la demande ».
Ah, il exagère, hein ?
C'est pas faux !
Non, enfin, j'ai toujours plus ou moins travaillé, mais c'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un de discrète, je travaillais dans mon coin.
Oui.
Mais bon, il a une tendance à exagérer souvent.
Vous éprouvez de la fierté, vous avez employé ce mot 2 fois. C'est beau d'être fier de ce qu'on fait ou des autres. Vous éprouvez de la joie, est-ce que vous éprouvez de la peur? Est-ce que vous avez un peu le tournis de ce qui vous arrive, Afzia Herzi?
Oui, il y a de tout, de la peur, du stress, mais plus de joie. Vraiment beaucoup de joie, de bonnes ondes, bonne énergie. C'est cool parce que c'est énormément de travail, en tout cas de réaliser, d'écrire un film, de porter un film. C'est très très intense. Donc je suis très contente.
La petite Afzia, dans les quartiers nord de Marseille, puisque c'est là que vous avez grandi.
Oui.
Est-ce qu'elle avait envie de cette vie-là à 38 ans ?
Ah oui, ça a été un rêve. Moi, le cinéma, ça a toujours été un rêve. Et c'est sûr, où j'ai grandi, c'était plus un rêve inaccessible, mais j'y croyais beaucoup et c'est clair qu'aujourd'hui, quand je regarde en arrière, ouais, c'est beaucoup d'émotions. Et cette année, avec la sélection de La Petite Dernière à Cannes, c'est un rêve d'enfant qui s'est réalisé. Et quand je montais ces marches pour aller présenter le film, j'avais des images de moi petite à Marseille. C'était très émouvant.
Ah oui, c'est revenu comme des flashbacks.
Oui, vraiment. De moi en train de regarder le Festival de Cannes et de me dire un jour, j'irai présenter un film là-bas en tant que réalisatrice.
Dans une belle robe.
Dans une belle robe, oui.
Est-ce qu'on peut être heureuse dans le milieu du cinéma ?
Bien sûr qu'on peut être heureuse, je pense, dans n'importe quel milieu professionnel. Hein.
Mais je reçois parfois des femmes comédiennes ou cinéastes qui disent on n'a pas encore assez de place dans le cinéma français. Il est encore trop masculin, notamment dans les festivals, dans la programmation. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Ah bah, je suis complètement d'accord, c'est sûr. Mais c'est en train de se développer et c'est important. Bah, par exemple, hier, le film est sorti mercredi et j'étais la seule réalisatrice. La seule réalisatrice présente ce jour-là. Donc non, il faut encore plus de films, de cinéastes, de femmes. Mais c'est bien, c'est en train de changer.
Il y a encore un combat à mener ? Est-ce que c'est d'ailleurs le terme qu'il faut employer ?
Ah oui, c'est sûr que c'est un combat. Les films de femmes sont moins financés, c'est plus compliqué. Hein. C'est sûr que c'est plus compliqué, mais ça change. Et ça, c'est bien.
Vous y arrivez ?
J'y arrive difficilement, mais j'y arrive.
Comment vous faites ?
Moi, en tout cas, je ne suis pas inquiète, parce que je sais que mon premier film, je l'ai fait vraiment avec rien. Donc, on va dire que j'étais habituée un petit peu à faire avec rien. Donc, ça ne m'a jamais inquiétée. Je me dis toujours, voilà, si ça ne prend pas, ce n'est pas grave, bah, on le fera. Même avec un téléphone, on le fera.
Pour vos trois films en tant que cinéaste, est-ce que vous avez toujours été financée, par exemple, par le CNC ?
Non. Non, le premier, c'est vrai que je l'ai fait comme ça, donc j'avais pas envie d'attendre les financements. Le second, oui, et le troisième, non, pas du tout. Ouais. Je suis passée à ce qu'on appelle la plénière, donc c'est-à-dire c'est une deuxième étape où après on rencontre un peu le jury, etc. On parle du projet. Et après j'ai été recalée et je pouvais même plus repasser.
Donc comment vous avez fait ? Vous avez couru les boîtes de production ou...
Non, le film était produit déjà. Non, les productrices ont collaboré avec une prod allemande. Donc le film est coproduit par l'Allemagne parce qu'en France ça a été très très compliqué de trouver des financements. Ça a été vraiment le sujet du film qui est bloqué parce que j'avais fait quand même deux longs métrages qui avaient été déjà au Festival de Cannes dans d'autres catégories. Et là vraiment le sujet dérangeait clairement. Donc heureusement que l'Allemagne est venue sur le projet pour que le film puisse se faire.
Rien n'est jamais acquis hein, quand on est cinéaste.
Non, mais pas du tout. Hein. Et même, j'en parlais ce matin encore, justement avec Léa Misius.
La cinéaste qui a tourné Histoire de la nuit.
C'est ça, dans lequel je joue. Ça a été compliqué pour elle aussi, le montage financier d'Histoire de la nuit, alors que c'est quand même une grande cinéaste.
Oui, et un sacré roman de Mauvigné.
Oui. Oui.
On écoutera tout à l'heure une chanson de votre invité, Nawel Ben Krayem. Là, on va écouter Yoa qui chante La Favorite. Mais je voudrais parler un petit peu de musique avec vous, parce que dans La Petite Dernière, cette jeune femme qui va commencer à vivre ce qu'elle a envie de vivre, une homosexualité et surtout une recherche d'amour, elle va dans des bars, elle va dans des lieux, dans des soirées. J'imagine qu'il a beaucoup fallu travailler la playlist de votre film.
Oui. J'adore la musique. Après, j'avoue que je suis pas spécialiste à dire que je vais pas parler techniquement. J'arriverai jamais à expliquer quoi que ce soit. Mais je vais plus mettre des mots, en tout cas, sur ce que j'ai envie, sur ce que je ressens. Mais oui, la playlist était importante parce que c'est un personnage qui fréquente beaucoup l'univers de la nuit. Et j'adore la musique aussi. Je trouve que ça apporte énormément d'émotions.
Vous êtes éclectique dans vos goûts musicaux, Afzia Herzi ?
Complètement. Complètement. J'ai pas de... Ouais.
Ça peut être de la techno, ça peut être Zazie.
Oui, la variété française.
Ça peut être Frédéric François.
Exactement. Moi, ce qui me touche, c'est la voix de la personne, l'émotion, la musique. J'ai besoin d'avoir de ressentir des émotions, de me faire des images quand j'entends une musique, une chanson.
Vous connaissez Yoa ?
Non.
Jeune autrice, compositrice française. Est-ce que vous la connaissez, Nawel ?
Oui, j'ai écouté quelques titres, notamment un dernier qu'elle a fait avec Solane, que j'ai trouvé super.
Oui, et bien voici de Yoa avec Yoa, La Favorite.
Partez devant, je vous rejoins. Vu d'ici, mes rêves me paraissent si loin. Loin de moi, l'idée d'en refaire. Je construis des châteaux. Mettez je sais pas vraiment où je vais, mais je sais que j'y vais.
Vincent Josse sur France Inter.
Moi, franchement, je serais toi. Maman, la vérité, franchement, c'est pas parce que tu es ma mère, hein. Tu es un canon. Tu as la jeunesse, tu as la beauté, tu es magnifique, tu as tout pour toi. Arrête, moi, je suis toi, pour leur faire la jalousie. Je mets une méchante robe, je me maquille bien. Moi, je te fais un méchant brushing, tout ça, tu mets plein de bijoux, tout ça, tu vas, tu es en place. Tu regardes droit dans les yeux, tu marches, tu fais ta belle et tout, tu fais ta star. Tu vas, tu fais comme si de rien n'était, tu fais l'hypocrite. T'as vu comment elles font, elles, quand elles te voient? Je te dis ça va, là, tu vas bien, ça fait longtemps, tout ça. Tu fais pareil, tu calcules des gains. Au moins, tu les auras bien niqués comme ça. Tu fais ça, à la vraie, qu'est-ce qu'il y a? T'es pas une femme? Tu les emmerdes, rien que pour leur foutre les nerfs, tu leur fais ça. Faut que tu leur montres qui tu es. Tu es un canon, maman, comparé à elle. Tu es un canon. Y a rien à voir, c'est le jour et la nuit. T'as vu la tête qu'elle a, s'il te plaît? Hein? Toute grosse, là, c'est même pas s'habiller. C'est dégueulasse qu'on met sa bille. Elle met les habits du marché aux puces. Ah, elle me dégoûte, je te jure. Elle est trop moche avec ses cheveux, là. Ah, ah, t'as tes plus beaux cheveux, toi. Elle sait rien faire, à part critiquer les gens, avoir une langue de pute et sait faire la cuisine. C'est tout ce qu'elle sait faire. Attends, moi, franchement, je préfère être un canon que savoir faire la cuisine, hein, la vérité.
Je suis sûr que vous avez reconnu cet extrait, c'est La graine et le mulet d'Abdelatif Kechiche en 2007. Vous jouiez Rim à Vzia Herzi,
oui.
Qui parle à sa mère, qui essaie de la consoler. Alors elle parle pour que sa mère aille bien, c'est touchant. Et vous aviez 17 ans d'ailleurs, c'est assez émouvant de vous réécouter comme ça. Comment vous réagissez?
Je suis très émue aussi. À chaque fois que je revois une image du film ou que j'entends un extrait, c'est énormément d'émotions, de souvenirs.
Vous démarriez?
Ouais, première fois et surtout, ça passe trop vite. J'ai l'impression que c'était hier.
Presque 20 ans.
Ouais, presque 20 ans, incroyable. Très émouvant.
On a toujours en nous cette image de vous, Vzia Herzi, en train d'exécuter cette danse du ventre dans une petite jupe rouge avec un soutien-gorge rouge. On vous avait fait prendre du poids, c'était Kechiche qui vous avait demandé de prendre du poids. C'était extrêmement exigeant comme rôle.
Oui.
Parce qu'en plus, la danse, ça a duré 5 jours, je crois, cette prise.
Ah oui, ça a duré 5 jours, mais j'avais envie de relever le défi. J'étais extrêmement reconnaissante de la chance qu'il m'a accordé de pouvoir réaliser mon rêve depuis toujours. Et j'avais envie de relever le défi. Déjà à l'époque, j'aimais bien les défis. Et ça a été super. Après, bon, aujourd'hui, je ne pense pas que j'arriverai à redanser comme dans le film. Hein. J'ai revu des extraits là il n'y a pas longtemps. Je me suis dit, mais si on me demande de refaire ça, c'est impossible. Mais...
Ça vous arrive chez vous devant la glace de temps en temps?
Oui, je danse encore. Mais faire ça, c'est impossible. J'ai l'impression que ce n'est pas moi, en fait. C'est trop bizarre. Ouais. Il y a tellement d'années qui sont passées. En même temps, j'ai l'impression que c'était hier. Je ne me reconnais pas, mais c'est...
Il avait travaillé sur la tentative d'épuisement, hein, Kechiche, même sur le beau-père, sur sa mobilette qui n'arrêtait pas de tourner. Il y avait des scènes longues comme
oui,
ça.
Mais c'est ce qu'il y avait dans le scénario. Hein. C'est ce qu'il y avait dans le scénario et c'est ce qu'il voulait raconter. Justement que mon personnage, le personnage de Rim, danse un peu jusqu'à l'infini et lui court un peu jusqu'à l'infini. c'est cette poésie-là qu'il voulait apporter.
Dans ce qu'on vient d'entendre, et d'ailleurs vous vous souvenez de quelques paroles de ce dialogue, c'est marrant.
Oui.
Est-ce qu'il y avait de l'impro ou tout était écrit par Kechiche ?
Tout était très écrit, mais j'ai proposé pas mal de choses. Déjà à l'époque, j'aimais bien proposer des choses et il m'a laissé proposer.
Vous étiez déjà comédienne sans avoir fait d'école ?
Oui, sans avoir fait d'école. En tout cas, j'ai joué des scènes, proposé des idées. Et après, c'est vrai que par la suite, quand j'ai eu d'autres expériences avec d'autres metteurs en scène, il y en a qui n'aiment pas trop les propositions.
Donc, ah bon ?
Ah oui, donc j'ai dû m'adapter. Il y en a vraiment qui sont au mot près. Fin...
Téchiné ?
Non, Téchiné, il est ouvert aux propositions. Hein.
Bonello.
Il est ouvert, ouais. Bonello, non, on pouvait pas. En même temps, c'était compliqué parce qu'avec la Polonide, c'est un film d'époque. Donc moi, honnêtement, je savais pas quoi proposer.
Sylvie Vered.
Sylvie Vered, ouais, on pouvait proposer aussi. Elle est cool, Sylvie.
Bon, mais j'ai pas les noms de ceux qui refusaient.
Non, je peux pas dire. Ouais. Mais c'est pas une critique. Hein.
Non.
C'est, je respecte et en même temps, c'était super bien écrit. Mais si, c'est vrai qu'il fallait s'adapter.
Si j'étais comédien chez vous, est-ce que je pourrais proposer ou vous diriez non ?
Ah non, mais bien sûr, moi j'adore les propositions. Au contraire, je vais vers des gens qui sont riches en propositions.
On écoute Kechiche ? Abdelatif Kechiche, le réalisateur de La Graine et le Mulet, qui a fait tourner trois fois à Abdia Herzi, à mon avis, ça n'est pas terminé. Le voici sur France Culture en 2013.
Il y a d'une part cette passion hein, de travailler avec des gens qui ont déjà à la base aussi un don exceptionnel, même s'ils ne sont pas encore des acteurs confirmés. Ces jeunes filles dont vous parlez, Afsia, Sarah, Yaima, il y avait donc ce don à la base, hein, cette envie de communier avec elles. Mais je crois aussi qu'il y avait dans ma démarche une intention plus politique, si j'ose dire. C'était aussi une volonté de faire connaître d'autres talents qui viennent de milieux sociaux différents, qui n'ont pas forcément accès à ce monde du cinéma, de l'élite aussi. Et il y a cette satisfaction de se dire, eh ben, j'ai été à un moment l'instrument, aussi petit soit-il, de destin, de personnes, et ça réconforte aussi.
Je trouve intéressante la manière qu'a Abdelatif Kechiche, qui est assez douce d'ailleurs de dire « mais je montre des gens qu'on ne montre pas forcément ou qui n'ont pas accès aux oui. grandes écoles, etc. » Est-ce que vous êtes un peu dans cet état d'esprit-là quand vous tournez, quand vous cherchez des comédiens à Abdia Herzi et même quand vous écrivez un scénario ?
Oui, mais ça dépend de l'histoire que je raconte. Par exemple, pour Bonne Mère, j'étais dans cet esprit-là, voilà, parce que ça se passe à Marseille, dans les quartiers nord, et je ne me voyais pas, par exemple, aller vers un casting d'acteurs professionnels. J'avais vraiment envie d'entendre l'accent marseillais, d'aller vers quelque chose de vrai, mais en même temps qui est joué, parce que ça reste de la fiction. Et pour la petite dernière, c'est le casting est mélangé. Le casting,
il y a des professionnels.
C'est ça, oui, il y a
des amateurs.
Oui, voilà, c'est mélangé. Mais c'est vrai que pour le personnage principal, j'avais envie de nouveauté. Même si, bon, j'ai quand même regardé du côté des pros, mais peut-être par possessivité, je sais pas. Mais aussi, j'avais cette envie de, pourquoi pas essayer de découvrir, enfin, à mon niveau, quelqu'un. Un nouveau visage, quoi.
Un nouveau visage qui est magnifique,
oui.
Qui est celui de Nadia Meliti. Et encore une fois, elle a obtenu le prix d'interprétation féminine. Elle qui est étudiante en sport, hein, qui est une footballeuse, qui a eu des petits soucis physiques, mais oui. qui continue d'étudier, que je vous incite vraiment à aller voir. Vous l'avez vu, Nawel,
oui.
ce film. Elle crève l'écran, cette comédienne.
Oui, il y a une intériorité qui est magnifique. Et moi, la première chose que j'ai dit à Afsia, c'est que je trouvais qu'on avait l'impression qu'elles étaient cousines, ou qu'il y avait quelque chose d'âme commune, quoi.
Je dirais qu'il y a quelque... enfin, peut-être que je suis poète ou lyrique, mais il y a un feu qui brûle en vous deux.
Oui, je sais. Après, bon, moi, j'ai pas trop de recul, hein, c'est vrai, mais je pense qu'on va vers des gens qui nous ressemblent un petit peu, au niveau de l'énergie ou
vous
de
êtes
l'âme.
Vous êtes moins bonne en foot.
Ah, moi, je suis zéro en foot, par contre.
Mais meilleure en danse du ventre.
C'est ça, mais je vois, enfin, j'arrive à voir que c'est beau. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je l'ai rajouté au scénario, parce que c'était pas du tout dans le roman de Fatima Das. Mais quand j'ai su que Nadia faisait du foot, j'ai vu des vidéos d'elle en train de faire du foot, j'ai trouvé ça magnifique et j'ai voulu le filmer. Mais j'y connais rien du tout, ouais.
C'est assez touchant, d'ailleurs, parce qu'elle joue toute seule sur un terrain de foot. Toujours quand vous la filmez en train de faire du foot, c'est elle toute seule avec son ballon.
Oui. Oui, j'avais envie de...
Ça ajoute à sa solitude.
Exactement, de montrer cette solitude et... oui, elle se sent bien seule avec son ballon.
Oui, on se dit qu'elle se parle, qu'elle a un dialogue intérieur, une forme d'introspection. Oui. Les gros plans que vous faites sur son visage, la manière de capter des scènes directes, pleines de vie, il y a quelque chose d'un cinéma très nerveux, très vivant, avec peut-être parfois un peu d'impro, je me dis que c'est l'école Kechiche. On doit vous le dire souvent, est-ce que vous pensez que, ben, il est un peu en vous, ce cinéaste ?
Alors, on m'en parle beaucoup, oui. Moi, je prends ça comme un compliment, parce que c'est quand même un grand cinéaste. Je pense que oui, j'ai commencé avec lui, donc il doit y avoir une influence indirecte. Après, bon, c'est sûr qu'on ne peut pas imiter. Mais non, dans La Petite Dernière, il n'y a pas d'impro. Hein. Tout est écrit, c'est beaucoup répété. Comme au théâtre, on répète beaucoup. Enfin, j'ai répété toutes les scènes du film. J'ai des heures et des heures de répétition avec Nadia et tous les personnages du film. Mais non, c'est très écrit et je réécris. Ça m'arrive même de réécrire parfois sur place.
Vous répétez sans caméra, un peu comme au théâtre ?
Non, non, avec caméra. Avec caméra, justement. Pour
le déplacement ?
Pas forcément, plus pour que ceux qui n'ont jamais joué s'habituent à la caméra. Donc je répète avec le chef opérateur du film. Mais voilà, c'est une petite caméra, c'est pas la caméra du tournage. Et aussi pour essayer de voir quels sont les meilleurs profils, les meilleures manières de filmer tel ou tel personnage.
On va revenir sur le film La Petite Dernière, Abzia Herzi, mais je voudrais qu'on connaisse mieux votre voisine. Elle est déjà venue à France Inter, on l'avait entendu chez l'ami Goumar, quand il était producteur. Nawel Ben Krayem, vous êtes née, je le disais, en Tunisie. Je voudrais savoir comment Nawel est entrée dans la vie de Abzia.
Oui, donc j'ai rencontré Nawel il y a très longtemps, donc en Tunisie, sur le film de Mehdi Benatia qui s'appelle L'amour des hommes, où elle avait un rôle. Donc je crois que c'était ta première fois aussi... en tant qu'actrice. Et on a vraiment sympathisé. Là, j'ai découvert qu'elle était chanteuse et j'ai découvert son travail, sa voix magnifique. Et voilà, après, on est resté en contact et je suivais à chaque fois un petit peu ce qu'elle faisait. Et vraiment, je suis tombée amoureuse de sa voix, même sa voix parlée. Je trouve qu'elle est très douce, très apaisante et surtout multiples talents. Elle est musicienne, elle écrit des poèmes magnifiques.
Elle est comédienne.
Oui.
Qu'est-ce que vous ne faites pas ? C'est vrai que c'est agaçant.
Elle est vraiment très sensible. Hein. Et d'ailleurs, pour La Petite Dernière, un moment, pour le générique, j'avais imaginé une chanson et j'ai fait appel à Nawel. Et finalement, ça marchait plus, la musique. Et en 24 heures, elle a écrit et composé une chanson magnifique.
Et dans Tu mérites un amour, il y avait déjà une chanson de vous. On écoute un petit extrait.
Oui, c'est vrai.
Nawel Ben Krayem, qui grandit jusqu'à l'adolescence en Tunisie. Et je me dis que vous n'écoutiez pas la musique traditionnelle, le malouf tunisien, mais plutôt du rock.
Ouais, j'écoutais Nirvana, j'écoutais Ben Harper, j'écoutais des trucs que ma grande sœur se dégotait. Mais en fait, en Tunisie, les gens écoutent beaucoup de musique parce que c'est un pays de bons vivants, je dirais. Puis on écoute aussi beaucoup de chansons françaises. En fait, les Maghrébins, le patrimoine de la chanson française, il est encore assez vivant.
On écoute quoi, Aznavour ?
Ouais, on peut écouter Christophe. Dans un taxi, il peut y avoir de la house à 10h du matin, puis Aline. Et en fait, on écoute beaucoup de musique. Et puis, bien sûr, du Malouf. Et puis, aussi les chansons du folklore, elles sont toujours présentes aussi vivantes. Quoi. Et ça, c'est un truc qui me tient à cœur dans mon travail.
C'est vrai que tout ce mélange-là, il est dans vos chansons.
Ouais, tout à fait. Et moi, c'est assez naturel chez moi, mais dans le métier, comme ça se pense, c'était pas facile de faire comprendre ça. Par exemple, la chanson française ou le fait d'écrire des chansons en français, etc.
Et en arabe et dans d'autres langues.
Oui, alors qu'on a un bagage fort en arabe, ça, c'était pas facile. Et le fait de m'être exprimée dans le milieu littéraire et d'avoir publié des recueils de poésie, ça m'a aidée ensuite à écrire des chansons en français avec Agnès Jaoui, notamment. Récemment aussi, j'ai chanté avec Pascal Obispo et c'est une famille artistique qui s'est rejoint après que j'ai assis aussi des choses en poésie. Parce que je pense que quand on commence dans la musique et qu'on chante en arabe, on nous met dans la catégorie musique du monde et c'est un tout autre réseau, les festivals de world music, qui est un réseau qui est chouette aussi parce que ça permet de voyager, etc. Avec
on a du mal à vous caser, nous, en France, alors qu'on adore mettre les gens dans des cases.
C'est ça, on a du mal à se dire qu'on peut aussi écrire des chansons en français et aimer vraiment chanter la langue française quand on a un bagage sincèrement installée dans son patrimoine nord-africain.
Abzia, quand vous êtes arrivée, Abzia qui vous connaît, elle a dit « moi j'ai vraiment envie qu'on te connaisse encore plus ». Pourquoi on ne la connaît pas plus, Nawel, Abzia Herzi?
Ah bah je pense que non, quand même, elle est connue pour les amoureux de musique. Non, moi en tout cas, ce que j'avais envie vraiment de mettre en avant, c'est tous ses talents. Tous ses talents qui ne sont pas communs.
Oui, l'éclectisme de sa production, oui. Quoi. Entre la poète, la comédienne, la chanteuse, l'interprète donc, et l'autrice et compositrice.
C'est ça, et c'est quand même énorme, surtout, je ne sais pas comment tu fais, ouais. Pour écrire, pour faire tout ça, pour en 24 heures, c'est impressionnant.
Après, je pense qu'aussi, on se comprend bien, c'est-à-dire que là, j'ai vu le film et ça m'est venu, il y a une sensibilité aussi qui fait qu'on dialogue. Après, oui, je pense que je suis quelqu'un d'inspiré, mais tu dis que ça t'impressionne, mais toi, t'es hyper inspiré aussi. Enfin, ton adaptation, on oublie que c'est une adaptation, on a l'impression que c'est toi qui... Mais bon, tu fais confiance aussi, je pense, au maktoub, au destin, on t'a proposé ce livre et t'en as fait quelque chose. Mais c'est aussi, moi, un livre qui m'avait touché. J'avais déjà rencontré Fatima Das et...
Qui est l'autrice de La Petite Dernière.
Qui est de La Petite Dernière. Et donc les choses, des fois, quand on est au bon endroit, je pense qu'elles se font pour les bonnes raisons. On est inspiré, mais on n'est pas inspiré
par n'importe qui ou tout le temps.
Oui, je pense aussi.
Nawel Ben... Je veux bien le prononcer. Nawel Ben Krayem. Oui. Vous êtes venu avec une chanson, vous vouliez qu'on écoute la chanson qui s'intitule « Les Besses ». Oui. Dites-nous en plus et puis on l'écoute.
Bah, ça me faisait plaisir de passer cette chanson parce que pour le coup, Afsia m'a aussi fait un cadeau en réalisant le clip de « Les Besses », toujours à la fois avec cette exigence... cette simplicité, et dans un truc aussi, même s'il n'y a pas de moyens, on y va. Je pense qu'aussi, c'est ça qu'on a en commun, c'est qu'il n'y a pas d'impatience, mais en tout cas, on ne s'arrête pas aux pseudo-embûches de production, enfin, pseudo qui sont réels, hein, mais en tout cas, on fait les choses. Et ça, ça m'inspire beaucoup dans son chemin. Et là, effectivement, on sent qu'elle se déploie, et il y a plus de moyens au fil de ses films. Mais en tout cas, le premier, elle n'a pas attendu pour le faire. Et puis, quand on a eu envie de faire un clip ensemble, on n'a pas attendu pour le faire. Et elle a réalisé le clip de Les Besses, qu'on avait tourné à l'Institut du Monde Arabe.
Oui.
Les Besses, ça veut dire quelque chose?
Ça veut dire ça va. Et paradoxalement, c'est une chanson assez mélancolique. Et le refrain, c'est un clin d'œil à une chanson que j'adore, une chanson algérienne. Et c'est ma façon de dire, un peu comme ce qu'on pense beaucoup dans le Maghreb, même quand ça va pas, alhamdoulilah, on trouve les moyens de se consoler, de se relever, etc.
Il a suffi de si peu, puis le drame a eu lieu, et on fait face au pire, tandis que la foi se déchire, c'est la vie qui renonce un instant. Il faudra plus de temps pour remonter la pente, c'est plus lent de reconstruire. Et loin des sentiers vaincus, on se ramène à la vie, à la vue. Et les baisses, et il y a les baisses.
Elle est belle, elle est belle, elle est belle.
Le Grand Atelier sur France Inter.
Je sais pas, on sort un soir toutes les trois. On va s'amuser.
Pourquoi faire ?
Vas-y toi, pourquoi faire ? Arrête ton blabla là. C'est bon, je sais ce que c'est de pas s'assumer, de pas être bien dans sa peau, tout ça, mais à un moment, faut vivre, non ? Ce serait notre petite Joconde. Moi, je serais Cassandra da Vinci. Quoi, un cœur brisé, c'est quoi? Moi, je te recoue ton cœur, moi.
Tu dis que de la merde.
Je suis bourré. Je suis trop bourré.
On aime bien ce moment-là où le personnage principal commence à s'émanciper un tout petit peu. Elle a connu une nuit d'amour et puis elle est encore un petit peu coincée. Et là, une jeune femme homosexuelle assumée, je ne sais pas si c'est le terme qu'il faut employer, lui dit « mais lâche-toi un peu ». Là non plus, pas d'impro, Avzia Herzi, tout est écrit.
Ah bah bien sûr, non, c'est carré, hein, comme j'ai dit. En fait, vu qu'il y a beaucoup de personnages dans le film, j'ai pas le choix, il faut vraiment que ce soit carré techniquement, sinon rien n'est utilisable. Donc on peut pas improviser.
Mais c'est impressionnant parce qu'on a l'impression que ça sort d'eux. Mmh.
Oui.
Ça s'appelle être comédien, c'est ça ?
Bah ça s'appelle le travail, beaucoup de travail. Hein.
Alors comment vous les dirigez ? Quelle directrice d'acteurs et d'actrices êtes-vous, Avzia Herzi ?
Bah, je pense que je suis bienveillante. En tout cas, moi, j'aime voir les gens jouer. J'aime quand on essaye plein de choses. Et c'est pour ça que j'attache beaucoup d'importance aux répétitions. J'aime quand voilà, il y a des surprises qui apparaissent comme ça. Donc non, je suis quelqu'un de très encourageant. Et voilà, et on travaille sans stress. Et surtout, je me dis, voilà, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, bah, c'est que ça ne devait pas marcher. Donc je ne me mets pas la pression et on avance et... Et on a surtout pour objectif de s'amuser aussi avant tout, d'avoir du plaisir et d'essayer de ressentir un max de belles émotions.
Même quand c'est pas une comédie comme La Petite Dernière ?
Ah oui, mais c'est pas une comédie, mais enfin,
il y a des moments festifs.
Oui, c'est ça. En tout cas, moi, j'ai beaucoup rigolé sur le tournage. Hein. Ah oui, on pleurait de rire et les comédiennes aussi, les acteurs aussi. Ça a été vraiment un tournage très, très joyeux.
Alors, le point de départ de ce film-là, qui est votre troisième film, encore une fois, Avzia Herzi, c'est d'adapter un roman qui vous a plu, j'imagine, de Fatima Das, et d'imposer aussi à l'écran une réalité qui n'a pas été montrée si souvent que ça au cinéma. Je rappelle que c'est une jeune femme homosexuelle d'origine algérienne en banlieue parisienne qui aspire à vivre ce qu'elle est, son orientation sexuelle. Elle veut connaître l'amour avec une femme sans être rejetée de sa famille. Ça, c'est important aussi dans le film et dans le roman. Et oui. En pouvant encore pratiquer sa foi. Elle s'interroge beaucoup sur sa foi. Ce sont d'ailleurs les premières images du film, très douces, très belles, un matin où elle prie.
C'est ça. C'est un personnage qui n'a jamais été montré au cinéma.
Et jamais.
Jamais dans le cinéma français, sauf si c'est un film que j'ai raté. Et en littérature aussi, jamais.
Et donc, vous vous êtes dit, il faut le montrer.
Ah oui, enfin, quand j'ai refermé le roman et que j'ai pensé cinéma, je me suis dit, mais c'est vrai qu'on l'a jamais vu au cinéma, ce personnage, et pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce qu'il dérange ? Est-ce qu'on n'a pas envie de le voir ? Alors que, enfin, moi, j'ai grandi avec plein de copines qui vivaient la même chose que le personnage de Fatima. Enfin, pour moi, c'est un personnage qui fait partie du quotidien.
Et comment ça se passait pour elle ? Vous le saviez, vous ? Ou vous le deviniez ?
C'était les deux, ça dépendait des gens. Parfois, bah, par pudeur, on posait pas trop de questions. Et souvent, enfin, quand ça se passait pas très bien, intérieurement en tout cas, ça ne peut pas se passer bien. Quand on a du mal à s'assumer, à accepter qui on est, cette attirance qui est, entre parenthèses, différente. Donc quand on se sent différent, on peut pas se sentir bien, c'est pas possible.
Est-ce que des filles de banlieue lesbiennes sont venues vous voir après une projection ?
Ah oui, beaucoup.
Qu'est-ce qu'elles vous disent ?
Merci, il y en a qui sont très émues, qui pleurent, beaucoup, beaucoup, et plus qu'on ne croit, vraiment.
Nawel ?
Bah oui, parce que je pense qu'en plus, elle le traite d'une manière tellement universelle qu'il y a un rapport très large à ce que ça fait d'avoir un secret ou quelque chose qui n'est pas valorisé, pas entendu, pas compris. Et je trouve
qui est tabou même.
Ouais, ça dépasse le truc lesbienne, musulmane. Je trouve que ça rend hommage à toutes les vies un peu périphériques. Et puis c'est aussi une très belle histoire d'amour. d'un amour qui se révèle à soi-même. Des fois aussi, ce que je trouve beau dans le film, c'est vraiment ouais, l'intériorité, le fait qu'on la sent se révéler à elle-même. C'est pas tant la question du coming out, c'est vraiment pour soi. Et cette quête d'être honnête avec soi, avec ce qui nous anime, même si ça va pas être accepté par les autres, bah, c'est une espèce de sincérité, une ode à oser être qui on est. Et je pense que ça, c'est très, très universel.
On pourrait écouter Fatima Das parler de son roman et de ce qu'elle avait envie de dire à l'écrit.
J'ai commencé à écrire ce roman parce que j'étais arrivée à un moment dans ma vie où je me suis dit que j'avais grandi sans aucune représentation, en fait. Sans aucune représentation de ce que j'étais ou de ce que j'étais en train de devenir, à savoir être une femme, mais qui n'est pas complètement une femme, d'être française, la seule à être née en France dans ma famille, d'être une bonne élève, mais pas que, d'être lesbienne, d'être musulmane, croyante, et sans vouloir renoncer à aucune de ces identités-là. L'écriture, ça permet vraiment de trouver les mots qu'on n'arrive pas à dire de vive voix. Lorsqu'on n'arrive pas à affronter le regard des autres, lorsqu'on n'arrive pas à se le dire à soi-même, il est plus facile d'écrire, je crois. Je pense que c'est difficile de porter cette parole-là parce qu'on a l'habitude de nous faire trancher et de choisir. C'est-à-dire de dire qu'en fait, non, c'est autorisé, finalement, la religion l'autorise. Et moi, c'est pas ça que je raconte. J'essaie justement de chercher l'endroit de la complexité, de continuer à dire que, ok, c'est un péché, mais en fait, on n'est pas parfait. Et ok, on pêche, mais on aime les femmes, mais on aime aussi Dieu.
Est-ce que vous avez grandi, vous, à Vierzy, avec l'idée que le sexe était un péché ou l'homosexualité était un péché ?
Non, mais on va dire que c'était assez pudique, donc on parlait pas trop de ces sujets-là à la maison, honnêtement.
Est-ce que vous pratiquiez en famille la religion musulmane ?
Non, mais ma mère, oui, est pratiquante. Et elle ne nous a jamais imposé quoi que ce soit.
Donc vous n'êtes pas croyante, vous ?
Ça dépend.
En tout cas, pas pratiquante.
Ça dépend, non, pas pratiquante. Ouais. Mais ma mère, oui, et en tout cas, nous a toujours laissé cette liberté-là de choisir. Et c'est ce que j'avais envie aussi de raconter dans le film. Et c'est pour ça que je ne montre pas les autres personnages en train de prier, parce que je n'avais pas envie qu'on se pose la question. Voilà, pour moi, ça appartient à Fatima et...
Dans un cadre très intime.
Exactement.
Ouais.
Pour moi, religion, la religion fait partie de l'intimité.
Vous montrez sa foi, vous montrez sa peur d'offenser Dieu. Elle redoute un peu ce qu'elle fait. Elle le vit, elle, comme un péché.
Oui, elle culpabilise.
Elle culpabilise, mais finalement, son désir sera plus fort.
Exactement. Son désir est plus fort et c'est sa
victoire,
nature.
C'est une victoire, ce film.
Oui, et surtout, c'est sa nature. Et ça raconte aussi qu'on ne peut pas aller contre sa nature. Elle essaie, mais elle ne peut pas. Elle n'est pas attirée par les hommes, et c'est comme ça. Et elle n'a pas choisi, c'est pas un choix.
C'est pas un choix, bien sûr. On la suit à partir de l'âge de 17 ans, alors que dans le roman, ça commençait plus tôt.
Oui.
Pourquoi 17 ans alors ? C'est ça, c'est le choix de la scénariste, Adia Herzi.
Oui, pourquoi 17 ans ? Parce que j'avais envie de me concentrer sur une année. Et j'avais envie de raconter la fin du lycée, le bac, l'entrée dans un autre univers avec la fac. Et j'avais pas envie de raconter l'enfance. Quand j'ai pensé scénario, techniquement, ça allait être trop long de montrer l'enfance. Et je me suis très vite dit, de toute façon, on comprendra plus ou moins l'enfance qu'elle a eue quand on verra les autres personnages de sa famille. Et surtout, c'est compliqué aussi de raconter l'enfance. Il aurait fallu trouver une actrice, enfant. Et l'enfance dans le roman se passe en Algérie. Donc il aurait fallu aussi tourner dans un autre pays. Non, c'était trop compliqué.
Et avoir plus de sous.
Ah oui, et c'est déjà que je savais que ça allait être compliqué. Non, mais vraiment, c'était l'année des 17 ans, je trouvais ça plus...
Ça vous permet aussi de traiter la sensualité, le désir.
Oui.
Y a des gros plans sur les visages. Vous la suivez toujours en gros plan. Il paraît que même à la première projection, elle était surprise, la comédienne, de se voir filmer de si près. Vous filmez des femmes qui s'embrassent.
Oui.
On sent que... J'allais dire que vous aimez les baisers, en tout cas que vous aimez filmer des corps, que vous aimez filmer la chair, que vous n'avez pas peur de ça. Avec la lumière, vous faites en sorte que le cadre soit beau, qu'il y ait du désir qui circule. Vous ne filmez pas d'actes sexuels, en revanche.
Non, il y a des débuts d'actes sexuels. Après, bon, ça fait partie de l'histoire et de la vie du personnage. C'est un apprentissage. Et...
Oui, mais vous auriez pu être moins pudique. Il n'y a pas de scène de femme nue dans un lit.
Ah, il y a... Si, il y a. Mais c'est dans une lumière très douce. Non, après, ça fait partie de la vie. Hein. Le sexe fait partie de la vie. Et moi, j'avais envie de filmer, en tout cas, comme j'avais envie de voir le film. Je suis beaucoup inspirée par les tableaux. J'ai pas mal re-regardé des tableaux de nus féminins.
Lesquels, par exemple, pour ce film ?
J'aime beaucoup le travail d'Ingres.
Oui.
Qui a fait des nus magnifiques.
Des dos, des femmes nues de dos, entre autres.
C'est ça. Renoir aussi, pour les visages et les gros plans, il a peint beaucoup de femmes orientales. Donc non, on va dire que mon inspiration, c'était plus la peinture et surtout essayer en tout cas de filmer ces femmes-là, ces corps, cette sensualité-là avec respect et surtout, oui, avec ma pudeur à moi, parce que de toute façon, ça fait partie de la vie. Après, c'est sûr que ça peut gêner plus ou moins certaines personnes, mais ça fait partie de la vie et c'est comme ça.
Vous êtes en train de préparer un quatrième film ?
Pas tout de suite, franchement, non. Là, non. J'attends, ouais.
J'avais lu que vous prépariez l'adaptation d'un roman de Leïla Slimani sur l'addiction sexuelle, d'ailleurs, dans le jardin de l'ogre.
Oui, c'est en cours, mais ce ne sera pas pour tout de suite.
D'accord.
C'est en écriture.
On se rappelle ?
Oui, on se rappelle avec plaisir.
On a entendu des chansons de Nawel Ben Krayem. Est-ce qu'on peut entendre un poème ? Est-ce que déjà, vous en savez un par cœur de vous,
bien
de
sûr.
Votre production ? Parce qu'il y a plusieurs recueils qui sont déjà sortis.
Ouais.
On vous écoute avec Abzia et avec les auditeurs.
J'ai sauté d'une falaise à l'intérieur de moi pour plonger vers les astres ou pour plonger vers moi. Je suis mère deux fois et enfant tant de fois. La petite fille en moi grelotte dans la voix de rêves que d'autres ont fait ou défait pour moi. Des carences, des cadences, des danses et cadenas que mère, père et terre auront déposés là. Tirer à eux la couverture de survie. Je choisirai les prénoms de mon fils, de ma fille. Rêverai pour eux d'étoiles qui ne se défileront pas. Et qui vivra verra ce qui les sauvera. J'ai sauté d'une falaise à l'intérieur de moi. Pour plonger vers les astres ou pour plonger vers toi.
Merci,
magnifique.
C'est très beau.
C'est magnifique.
Et vous dites ça en plus avec un grand sourire du début à la fin. Vous l'avez écrit quand ?
En fait, c'est dans le recueil Le Cordon.
Oui, qui est le dernier recueil.
Ouais, mon dernier recueil qui
que
est sorti
vous avez publié,
un an et demi.
Le Cordon, ça s'écrit C-O-R-P-S, plus loin D-O-N.
Oui, en deux mots, parce que j'adore les jeux de mots. Je l'ai écrit pendant ma deuxième grossesse,
oui.
Où j'étais enceinte d'une fille. Et puis, je pense qu'il y avait tout un truc autour du féminin, de la filiation, du rapport à la mère qui me tourmentait. Et puis, c'était une grossesse marquée aussi par beaucoup d'asthme. Donc, il y avait un espèce de truc où j'étais à la fois empêchée de respirer et à la fois dans ce truc de puissance de vie qui est propre au miracle et au mystère de la grossesse. Et c'est vraiment cet angle-là, en fait, le point de départ du livre. C'est un long poème entre la poésie et la prose, qui est un peu différent de ce que j'écris d'habitude, qui sont des poèmes plutôt qui ressemblent un peu à l'écriture de chansons, avec beaucoup de rimes, etc. Et là, c'était un peu comme une longue lettre à ma fille, mais pas que à ma fille, comme si je convoquais aussi les fantômes de la famille, etc. Et j'ai l'impression qu'il m'a aidée aussi à guérir ce texte. Et puis après, quand j'ai accouché, il s'est passé un peu de temps, je l'ai relu, et puis je l'ai envoyé à mon éditeur. Et puis il m'a mis,
vous avez dit on garde.
Dit qu'on, on garde, on tient quelque chose. Et du coup après j'ai retravaillé des choses, j'ai rajouté des poèmes plus courts, plus joyeux. J'ai travaillé aussi le rapport au corps social, au rapport à l'autre, pas que sur le rapport à la grossesse. J'ai un peu exploré le corps dans toutes ses dimensions.
Assez universel d'ailleurs, parce que moi ça me touche que vous écrivez et je ne suis pas mère de famille.
Exactement, j'avais aussi envie d'essayer d'attraper ce mystère qui inclut les hommes, puisque bien sûr ils font partie,
ils sont là.
C'est les enfants d'eux, les pères, les frères et toutes ces figures-là, elles apparaissent aussi dans mon recueil.
Nawel Ben Krayem, j'ai noté des petites notes sur votre ouvrage, là, Le Cordon. Je vais vous dire ce que j'ai écrit.
Oui, avec plaisir.
J'ai écrit « Nawel évoque le corps », ça tombe bien. « La prière
»,
son pays d'origine, la Tunisie, et ses décors, ses paysages. Il y a tout cet héritage-là qui se retrouve dans vos chansons et dans vos poèmes.
Oui, et puis je pense que quand on s'apprête à mettre un enfant sur cette terre, c'est forcément un enfant qui a un autre embranchement. Déjà, il y a un père qui vient d'encore ailleurs. Et puis moi, c'est des enfants qui naissent dans un autre pays que celui dans lequel j'ai grandi. Et tout ça, c'est mystérieux. Et puis je pense que quand on est artiste, on est un peu toujours conscient de ce qui était avant nous. Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression que je suis à la fois toujours dans la création et à la fois toujours très connectée à mon patrimoine, et même dans ma musique, je travaille toujours comme ça à la fois. Par exemple, j'ai un prochain album qui arrive avec des chansons à moi, et en parallèle, je fais tout un travail sur l'héritage de différents chanteurs qui m'ont marqué, qui font partie des figures du passé, qui eux-mêmes travaillaient avec l'héritage qui les précède. Je pense à Shira Limiti ou Rachida, qui sont des projets sur lesquels je travaille comme chanteuse au quotidien, donc comme interprète, mais tout en étant moi-même dans une démarche à écrire des choses, à écrire des nouvelles chansons. Et j'ai l'impression d'être toujours dans un double mouvement entre ce qui me précède et ce qui va arriver que je connais pas encore.
Avia Herzi, vous entendez là la poète qui oui. s'exprime, qui a envie de faire plein de choses et qui fait plein de choses, qui est éclectique, vous nous le disiez au début de cette émission. Et puis elle parlait de sa poésie, on entendait un très beau poème. La poésie, elle fait partie de votre vie aussi, vous parliez de la peinture. Vous allez sans doute dans des galeries ou dans des musées pour voir des tableaux ou vous acheter des livres. Et ça nourrit votre cinéma. Est-ce que la poésie aussi ?
La poésie, oui. Bah, en tout cas, quand je lis les mots de Nawel, c'est très inspirant. Il y a des images qui arrivent dans ma tête. Sinon, elle a été très présente petite à l'école. Parce qu'à l'école, on apprend plein de poésie. Donc c'est là où j'ai découvert la poésie. Et je trouve ça vraiment magnifique.
Je vous pose cette question parce qu'il y a une très belle scène dans votre premier film. Vous êtes éprouvé par un chagrin d'amour. Hein, et il y a un jeune photographe, Anthony Bajon, merveilleux, qui est amoureux de vous. Et très romantique.
Elle a écrit un poème qui s'appelle « Tu mérites un amour » et ça me fait penser à toi.
Frida Kahlo ?
Ouais.
Je savais pas qu'elle écrivait des poèmes aussi.
En gros, ça dit « Tu mérites un amour qui te pousse à te lever rapidement le matin et qui éloigne tous ces démons qui te laissent pas dormir. Tu mérites un amour qui te fasse te sentir en sécurité, capable de décrocher la lune lorsqu'il marche à tes côtés. Qui pense que tes bras sont parfaits pour sa peau. Tu mérites un amour qui veuille danser avec toi, qui trouve le paradis là chaque fois qu'il regarde dans tes yeux, qui ne se lasse jamais de lire tes expressions. Tu mérites un amour qui t'écoute lorsque tu chantes, qui te soutient lorsque tu es ridicule, qui respecte ta liberté, qui t'accompagne dans ton vol, qui n'a pas peur de tomber. Tu mérites un amour qui balayera les mensonges et qui t'apportera le rêve, le café et la poésie. Et ça me fait penser à toi.
C'est vrai.
Bah ouais, jusqu'au bout, Frida Kahlo, quoi.
Jusqu'au bout, Frida Kahlo. C'est beau. Et c'est une belle idée, je trouve, de cinéma, d'avoir introduit un long poème de Frida Kahlo.
Magnifique,
parce qu'il vous dit autre chose que le poème, ou en tout cas, il vous dit « je t'aime ».
Oui.
Et ouais, accepte-moi.
Ça a été un pari, hein. J'avoue que j'y pensais fortement à cette séquence. Et je me suis dit, bon, soit ça passe, soit ça casse, quoi. Un poème ou cinéma. Et vraiment, la première prise... J'ai dit non, moi ça passe. Et d'ailleurs, j'avais même pas de titre pour le film. Enfin, je pensais fortement à ce titre. Mais
tu mérites un amour.
Je me suis dit, si le poème ne fonctionne pas, le titre ne marchera pas. Et je me souviens avoir dit après à l'équipe, écoutez, c'est bon, ça va s'appeler Tu mérites un amour.
Bonne idée.
Mon livre Le Cordon, il a été édité au Mexique, traduit en espagnol, et j'ai eu la chance d'aller l'accompagner là-bas. Et je suis allée à la maison de Frida Kahlo, et je suis aussi très touchée par tout ce qu'elle a écrit.
Elle vous inspire.
D'artiste.
Ouais. Il y en a peut-être une autre qui va vous inspirer d'artiste. C'est une rappeuse, musicienne, comédienne britannique. Elle aussi, elle sait faire pas mal de choses.
Quelle tempête ?
C'est Little Sims.
Ah,
non. C'est Little Sims qui chante Only avec Lydia Kito.
Le Grand Atelier, Vincent Josse, sur France Inter.
You wanna get swept in my BM, yes. Brunch in Soho with Michelin star chefs. Stepping out of place, smelling like success. Can't take a break from making dumb checks. I'ma spend my M's, pass through the ends. Tattoo on HS, saying it's IMZ. I know you wanna live your dreams, baby. Girl from the hood, turn into a queen, baby. And we blessed, no stress to impress. In my armor, Margiela, the gold vest. London to Jamaica, Rome, I boon them. When you see the Rasta, you have to salute them. We ain't here for all that hateful stuff. It's funny how they always wanna hate to love. It's you I think of on my day to day. It's only you that got me thinking safe to say, huh?
Don't you get me right to fuck no other. All the lessons that I learned.
I can never give this up, even if I try. I'm reserved for you, they can't have my time. I see heaven when I look at you in the eye. Oh, it's a blessing we alive. I'ma always honor what we be on when we decide. Being in your arms is the freest I've ever felt. I is him and he is I. Give you love, I give you love. It's adrenaline, are you feeling the rush? When you ain't here, babe, I've been needing your touch. As if your voice, it wasn't healing enough. Sometimes you gotta let go, baby. Understand when your house ain't a home, baby. Through the rain, we built up the courage. So now the harder they come, we rising above it. No.
C'est le grand atelier sur France Inter de Abzia Herzi, comédienne et cinéaste. Vous avez compris qu'elle vient de sortir un film qu'on vous conseille vraiment beaucoup, je suis avec mon attaché de production qui s'appelle Marion Guilbeault, et on en parle encore 3 semaines après.
Mmh. Ah,
plutôt
bah,
bon
merci.
Signe. Mais non, c'est sincère. Est-ce que vous avez un conseil culturel, Abzia, à nous donner?
Le deuxième roman de Fatima Das, l'autrice de La Petite Dernière, qui s'appelle Jouer le jeu, que j'ai lu et que je trouve vraiment magnifique et qui est un roman très très important pour la jeunesse.
C'est encore un personnage féminin qui est au centre du roman ?
C'est encore un personnage féminin magnifique et vraiment un roman nécessaire et je trouve l'écriture de Fatima Das incroyable.
Vous allez en faire un film ?
Peut-être.
Oh ! Mais vous avez plein de projets, Abzia Herzi. Nawel.
Alors, je dirais Comme nous brûlons, qui est une revue
marseillaise,
un collectif d'autrices qui donne la voix à des autrices un peu sous-représentées dans le milieu littéraire parisien. Et d'ailleurs, j'y ai découvert, dans la première édition, il y avait Fatima Das, et il y avait aussi Nelly Slim, qui est d'ailleurs une des porteuses de ce projet, dont j'ai découvert la plume que j'ai adorée.
Redites le nom de la revue.
Comme nous brûlons. Ils sont en train de préparer un deuxième numéro.
On arrive au terme de votre grand atelier, Mademoiselle Herzi. On a parlé de Paris, là. Vous citiez Paris. Vous vivez, Abzia, à Nancy. Pourquoi ?
Oui, dans les alentours, par amour. Voilà,
ah,
par
c'est
amour,
une bonne réponse.
Moi, j'ai grandi à Marseille, après je suis allée à Paris, et après, voilà, dans le coin de Nancy, c'est pas vraiment Nancy, voilà, c'est à quelques kilomètres.
Votre amoureux
Lorraine.
Vient de là.
Oui,
voilà.
Oui.
On peut dire que c'est un cycliste.
Oui.
Un cycliste, c'est écrit partout.
C'est écrit partout.
Un cycliste. J'ai croisé une consoeur de France Culture qui me dit, tu te rends compte, Abzia Herzi vit avec un cycliste. Oui, mais c'est pas grave. Nawel Ben Krayem, oui. Vous habitez où?
J'habite à Saint-Denis, en région parisienne. Moi, je suis arrivée à Toulouse et j'ai une bonne partie de ma famille qui est toulousaine ou du Tarn, mais j'habite en région parisienne.
Je voudrais qu'on se quitte avec une cinéaste qui, elle, a grandi à Sète et qui a vécu ensuite rue Daguerre à Paris avec son mari Jacques Demy. Vous voyez à qui je fais allusion, une femme cinéaste.
Agnès Varda. Et qui est passée sur le tournage de La Graine et le Mulet d'ailleurs, parce qu'on a tourné La Graine et le Mulet à Sète. Et elle est venue quand on tournait la séquence sur le bateau. Et j'ai fait des photos avec elle et elle était super, elle est restée à côté d'Abdelatif. C'était trop beau.
Elle vous a dit des choses ?
Oui, on a discuté. Trop belle rencontre, vraiment très très émouvant.
Écoutez-la parler des cinéastes femmes.
Les scénarios écrits par les femmes, les scénarii écrits par les femmes. Et d'autre part, les femmes, quand elles réalisent, amènent un regard, une vision, une sensibilité sensiblement différente quand même de celle des hommes. Maintenant, vous savez, c'est difficile de faire une théorie parce que bon, il y a le bon cinéma puis il y a le mauvais. Il y a des femmes très sensibles, très féminines, très féministes qui font des mauvais films. Il y a des hommes, très phallocrates, très assommants pour nous qui font de très bons films en termes de est-ce que c'est bien fait, est-ce que c'est bien raconté, est-ce qu'ils emmènent l'émotion d'un spectateur de là à là. Le problème, c'est savoir qu'est-ce qu'on veut voir au cinéma et qu'est-ce qu'on veut sentir. Je crois que les femmes, quand elles s'approchent du cinéma, elles se posent les questions de l'image de la femme au cinéma. Les femmes en ont marre que les images de femmes dans les films proposés depuis 50 ans reproduisent très souvent les clichés, les stéréotypes. Et vous savez, les stéréotypes doubles, c'est-à-dire putain ou bonne sœur, l'épouse, la maîtresse... L'idiote mignonne, l'intellectuel moche, la femme sensible mais qui ne sera pas la vraie passion, la passion mais qui est une garce, etc.
Ça vous fait sourire,
oui.
Abzia Herzi.
J'adore Agnès Varda et son franc-parler, elle a raison. Elle est sans filtre.
Elle dit que les femmes réalisatrices se posent la question de la femme au cinéma et elle essaie de la sortir des clichés, des stéréotypes. C'est un peu ce que vous essayez de faire aussi.
Oui, complètement. Et je suis d'accord avec elle.
Bonne mère quand vous filmez, une mère courage qui est femme de ménage dans un aéroport et puis qui est aussi aide à domicile et puis qui va voir son fils en prison et qui s'occupe de ses deux autres enfants, c'est montrer aussi une femme qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma.
Oui, c'est ça, un personnage, une héroïne du quotidien qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir au cinéma. C'est pour ça que j'ai eu envie de faire ce film aussi.
Est-ce que vous faites du cinéma politique ?
Je pense qu'il y a toujours un petit peu de politique, c'est important. En tout cas, moi, c'est ce qui m'inspire.
Merci d'être passé dans le grand atelier avant
merci
de retourner à Nancy.
Merci beaucoup.
Je remercie aussi Nawel Ben Krayem. Je rappelle le titre du film inspiré du roman de Fatima Das,
oui.
La Petite Dernière, et Le Cordon,
oui.
Un recueil de poésie plus plein de chansons.
Oui, et le 12 décembre à l'Institut du Monde Arabe.
À Paris. David Leprince a réalisé cette émission programmée par Marion Guilbault, préparée avec Alexandra Connet. Valentine Chedebois a programmé la musique. Il y avait à la technique Loïc Rapsos. On se retrouve, s'il vous plaît, samedi à 17h sur Inter pour la balade de Mathias Malzieux, l'auteur et le chanteur de Dionysos. Et dimanche, même heure, même antenne, pour le grand atelier du comédien Benjamin Voisin, qui est à l'affiche de L'étranger de François Ozon, d'après le roman d'Albert Camus.